Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment bouillonnant. On sent une vraie effervescence autour des logiciels dans le monde de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, la EC quoi.
Oui, bonjour. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'une possible nouvelle ère. Certains l'appellent même le BIM 2.0.
Exactement. Alors pour explorer ça, on s'appuie aujourd'hui sur une analyse tirée d'une vidéo YouTube de la chaîne Architech Network, une vidéo assez récente qui passe en revue neuf startups, neuf jeunes pousses très prometteuses dans ce domaine. Notre objectif ici, c'est de comprendre un peu pourquoi ce mouvement arrive maintenant. Qui sont ces nouveaux acteurs et surtout, qu'est-ce qu'il y a de vraiment pertinent ou surprenant à retenir? Alors on y va, on décortique tout ça.
Allons-y.
D'abord le dessin à la main, puis la révolution du CAD, le dessin 2D sur ordinateur, il y a quoi, 20-25 ans?
C'est ça, un premier grand saut.
Et puis, dans les années 2000, est arrivé le BIM, le Building Information Modeling, avec des logiciels comme Revit notamment, qui ont apporté la 3D, la maquette numérique, la promesse d'une meilleure intégration, de plus de données.
Tout à fait. Ça a été vraiment le deuxième gros changement.
Mais alors, si on avait déjà ça? Pourquoi on parle de BIM 2.0 aujourd'hui? Qu'est-ce qui coince finalement?
Mais c'est exactement là que le bad blesse, comme on dit. Revit, par exemple, c'était vraiment révolutionnaire à ses débuts, personne ne peut le nier. Mais depuis son rachat par Autodesk et surtout ces dernières années,
Oui.
beaucoup d'acteurs importants, des grosses agences d'archi notamment, trouvent que l'innovation, bah, elle stagne un peu. Ou en tout cas, qu'elle ne va pas assez vite par rapport à leurs besoins.
D'accord. Et en parallèle, j'imagine?
Et en parallèle, les coûts d'abonnement, eux, ils n'ont pas stagné. Ils continuent d'augmenter. Ça crée une frustration assez palpable dans le milieu.
On se souvient, hein, oui, la vidéo mentionne ces lettres ouvertes en 2020.
Exactement. Des agences qui ont publiquement interpellé Autodesk en demandant plus de développement, un meilleur rapport qualité-prix. C'était un signal fort.
Donc une frustration liée à la stagnation et au coût. Mais il y a peut-être d'autres raisons à cet appel pour du neuf?
Ah oui, tout à fait. Il y a un problème plus structurel, je pense. C'est la fragmentation énorme du paysage logiciel en AEC. C'est un peu fou quand on y pense.
C'est-à-dire?
Bah, pour un projet, un architecte, un ingénieur va souvent devoir jongler entre Rhino pour la modélisation de formes un peu complexes, Revit pour la partie BIM pure et la documentation, peut-être Grasshopper pour le paramétrique,
Oui.
puis Onscape ou Lumion ou Twinmotion pour la visualisation. Sans parler des outils d'analyse structurelle, thermique, c'est un véritable parcours du combattant parfois.
Un workflow très décousu en fait.
Voilà, c'est souvent lourd, pas très fluide. Si on compare par exemple avec le monde du design produit, des plateformes comme CATIA de Dassault Systèmes ou celle de Siemens, elles visent une intégration beaucoup plus forte du concept à la fabrication. L'ASC à côté fait un peu figure de parent pauvre en termes d'intégration logicielle.
D'accord, je vois. Donc, ce mélange de frustration envers les outils dominants qui évoluent peu et cette fragmentation qui complique tout.
Exactement. C'est ce cocktail qui a créé, disons, un appel d'air, une opportunité pour une nouvelle génération d'outils d'émerger. Et c'est ça qu'on appelle, un peu par facilité, le BIM 2.0.
C'est très clair. Alors, la source qu'on analyse, elle propose une classification assez simple pour y voir plus clair. D'un côté, les plateformes dites larges, celles qui veulent un peu tout faire ou en tout cas couvrir une grande partie du processus. Et de l'autre, les plateformes étroites qui se concentrent sur un problème très spécifique, une tâche précise. Commençons par les larges, si tu veux bien. Les premières citées sont Snaptrude et Arco. Elles ont l'air d'avoir pas mal de points communs, non?
Oui, effectivement. Snaptrude, fondée en 2017, et Arco, un peu plus jeune, 2021. Les deux sont financés par du capital risque, ce qui n'est pas anodin, et elles partagent une approche assez similaire. Elles sont basées sur le cloud, très orientées collaboration en temps réel,
Ok.
et avec un focus très marqué sur les toutes premières phases du projet, ce qu'on appelle des études de faisabilité. L'idée, c'est de pouvoir modéliser très vite, un peu à la manière de SketchUp, tu sais, avec ce côté intuitif push-pull.
Oui, très facile à prendre en main.
Voilà, pour générer rapidement des volumes, des masses, y assigner des programmes, logements, bureaux, et sortir quasi instantanément des tableaux de surface, des diagrammes, des rapports de faisabilité.
Intéressant. Mais la source apporte quelques nuances quand même, hein. SnapStud, par exemple, chercherait à combiner cette facilité de SketchUp avec une certaine rigueur BIM. Il parle de fonctionnalités paramétriques.
C'est ça, l'ambition affichée est un peu plus large que la simple esquisse rapide.
Et pour Arco, ce qui ressortirait, c'est surtout l'interface utilisateur. La vidéo la décrit comme très sleek, très élégante.
Oui, le design de l'interface est souvent un point clé pour séduire les architectes. Arco semble avoir misé là-dessus.
Esthétiquement, par contre, les deux semblent un peu dans la même veine. Un style proche de SketchUp, avec aussi une influence des diagrammes qu'on voit beaucoup, type ceux de l'agence Big.
C'est vrai. C'est un style assez en vogue pour la présentation de concepts.
Mais la source soulève une question, et elle me semble pertinente. Est-ce que cette facilité, cette esthétique un peu diagrammatique, ne risque pas de limiter la capacité à gérer des géométries vraiment complexes ou une profondeur d'information BIM très poussée? Surtout si on compare à des outils comme Revit ou Rhino qui sont des bêtes de course sur ces aspects-là.
C'est une excellente remarque. Et c'est le défi classique pour tous les nouveaux entrants sur ce marché. Il faut simplifier pour attirer les utilisateurs, pour faciliter l'adoption, mais sans sacrifier la puissance nécessaire pour les vrais projets qui sont souvent complexes.
C'est un équilibre difficile à trouver.
Très difficile. La source semble dire que ces outils sont très prometteurs pour la phase de faisabilité, pour esquisser vite et bien. Mais est-ce qu'ils peuvent gérer un projet complexe de A à Z, de la conception détaillée jusqu'à l'exécution? Ça reste à prouver. Ce sont encore des plateformes jeunes, il faut le rappeler.
D'accord. Donc, à suivre de près, la troisième plateforme large mentionnée, c'est Giraffe. Elle est basée en Australie, c'est ça?
Oui, Giraffe. Eux aussi sont sur le créneau cloud, collaboratif, et très axés sur la faisabilité rapide. La vidéo parle d'une démo assez bluffante où ils passent d'un site vierge à un rapport de faisabilité complet en moins de 7 minutes.
Ah oui, quand même.
Côté financement, c'était peut-être un peu plus modeste au démarrage, mais ils semblent bien actifs. Leur esthétique est décrite différemment, plus fun, plus ludique. La source évoque une inspiration du mode arctique de Rhino, un rendu très épuré, et toujours cette influence des diagrammes type Big. L'auteur de la vidéo semblait apprécier ce côté un peu différent.
Et on les voit pas mal sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, si je me souviens bien.
Oui, ils communiquent beaucoup. C'est un acteur à surveiller également. Ce qui est intéressant avec ces trois premières Snaptrude, Arco, Giraffe, c'est qu'elles illustrent bien cette tendance d'attaquer le marché par le début de la chaîne de valeur, la faisabilité. Une phase qui, pour les architectes, est souvent moins bien rémunérée, donc où l'optimisation, l'automatisation peut avoir un impact rapide.
Une logique business assez claire finalement.
Tout à fait. Mais ce n'est pas la seule stratégie possible pour créer une plateforme large, comme on va le voir avec les suivantes.
Justement, on arrive à Motif. C'est la plus récente, elle date de 2023, mais apparemment avec un financement assez costaud dès le départ, venu de la Silicon Valley.
Oui, Motif a fait pas mal de bruit à son lancement. Leur approche initiale est un peu différente des autres. Ils n'ont pas commencé par un outil de modélisation de faisabilité. Leur premier produit, c'est une sorte de visionneuse BIM en ligne, mais hyper collaborative.
Un peu comme Miro ou Figma, mais pour les maquettes 3D?
C'est un peu l'idée. On peut importer des modèles de différentes sources, les visualiser dans le cloud et surtout les annoter, discuter dessus en équipe en temps réel. C'est vu comme une première étape, une brique de base pour construire quelque chose de plus large ensuite.
D'accord. Mais ce qui semble vraiment marquer les esprits avec Motif, c'est moins ce premier produit que l'équipe derrière.
Ah oui, alors là, c'est assez impressionnant. Dans l'équipe de Motif, on trouve des anciens de chez Autodesk qui ont travaillé sur Revit, des anciens de la célèbre agence d'architecture Big, et aussi des figures très connues et respectées dans le petit monde de la SI Tech, comme Greg Dench par exemple.
Ah oui, des pointures.
Voilà. Quand on voit une telle concentration de talents, d'expérience du BIM, de l'architecture et de la tech, forcément ça crée des attentes très élevées sur ce qu'ils pourraient développer à terme. On se dit qu'ils connaissent les problèmes de l'intérieur.
C'est sûr que ça donne du crédit au projet. Et pour finir ce tour des plateformes larges, il reste Konik, basé en Belgique, c'est ça?
Oui, Konik, encore une approche différente. Ils existent depuis environ 3 ans. Fait intéressant, ils ne se présentent pas vraiment comme une start-up classique, peut-être issue d'un groupe existant. Et surtout, point très notable souligné dans la vidéo, ils sont autofinancés jusqu'à présent.
Ah oui, c'est rare pour une plateforme qui ambitionne d'être large dans ce domaine. Ça demande beaucoup de moyens.
C'est extrêmement rare et ça influence leur stratégie. Leur priorité numéro 1, ce n'est pas la faisabilité rapide comme Snaptrude ou Arco. Non, eux, ils se concentrent d'abord et avant tout sur le cœur du réacteur. Construire un moteur de modélisation ultra solide, ultra performant.
Qu'est-ce qu'ils entendent par là?
Leur promesse, c'est d'être capable de gérer des modèles d'une complexité et d'une taille extrême, de la plus petite vis jusqu'au modèle urbain entier, comme ils disent, et surtout de pouvoir charger n'importe quel modèle, quelle que soit sa taille, en moins de 60 secondes. C'est une affirmation assez audacieuse.
Clairement. Et l'interface, l'esthétique ?
La vidéo la décrit comme propre et intuitive, moins peut-être dans le style diagramme fun que girafe, mais plutôt axée sur la clarté et l'efficacité.
Et la source trouve cette stratégie de Koenig de commencer par le moteur plutôt intelligente. Elle fait un parallèle intéressant.
Oui, j'ai trouvé ça très juste. Elle rappelle que Rhino, à l'origine, a percé grâce à sa puissance de modélisation géométrique pure, notamment avec les NURBS pour les formes complexes. Revit, lui, a séduit par sa capacité à gérer les données BIM, les paramètres, la documentation, même si sa modélisation de formes libres était moins naturelle au début.
Deux forces différentes.
Voilà. Et Koenig semble parier sur cette idée « aille d'abord construire une fondation technique hyper robuste, un moteur de modélisation et de gestion de données très costaud, avant d'élargir progressivement les fonctionnalités vers la documentation, la collaboration, etc. » C'est une approche peut-être moins glamour au départ, mais potentiellement très solide sur le long terme.
C'est fascinant de voir cette diversité de stratégies, même au sein des plateformes dites « larges ». Certaines attaquent par le haut, la faisabilité.
Les stratégies top-down, oui.
D'autres par le bas, le moteur technique fondamental.
L'approche bottom-up, ça montre bien qu'il n'y a pas une seule recette miracle pour essayer de créer le prochain BIM. Et ça montre aussi, je pense, à quel point c'est un défi énorme de vouloir concurrencer les outils établis. Ça demande du temps, des moyens et des choix stratégiques forts.
Tout à fait. Bon, passons maintenant à l'autre catégorie identifiée par la source, les plateformes étroites. Celles qui ne visent pas à tout remplacer, mais à exceller sur une tâche bien précise. Et là aussi, il y a des choses assez étonnantes qui émergent. On commence par Spatio AI, une boîte suédoise fondée en 2022.
Oui, Spatio AI. Alors eux, ils se concentrent aussi sur la phase de faisabilité, comme Snaptrud ou Arco, mais avec une très forte composante d'intelligence artificielle. Leur créneau, c'est la recherche de sites potentiels, la génération automatique de masse, de volume sur ces sites, et même des propositions d'options de façade.
Et tout ça grâce à l'IA.
C'est ce qu'ils mettent en avant. L'idée, c'est de générer très très vite plein d'options exploratoires qu'on peut ensuite exporter vers Rhino ou Revit pour les affiner. L'auteur de la vidéo dit l'avoir testé et trouvé les résultats rapides et pas mal du tout, ce sont ses mots.
Ce qui est appréciable, selon la source, c'est qu'on peut quand même ajuster les choses manuellement. Ce n'est pas juste une boîte noire qui sort un résultat et puis c'est tout.
Exactement. Cette possibilité de contrôle manuel est cruciale pour que les architectes puissent s'approprier l'outil.
Mais le potentiel qui a l'air le plus intrigant, c'est leur idée d'intégrer les réglementations locales, le zonage, directement dans l'outil via l'IA, pour vérifier la conformité en temps réel ou presque.
Ah oui, ça.
La source parle même, avec humour, du rêve de l'architecte Mr. Clippy, tu sais, l'ancien assistant de Microsoft Office, mais qui serait là pour te dire « attention, tu dépasses la hauteur autorisée » ou « là, ton retrait par rapport à la limite de propriété n'est pas bon ».
Ce serait le Graal. L'intégration de la réglementation dans les outils de conception, c'est quelque chose que tout le monde cherche à faire depuis des années. Mais c'est incroyablement complexe parce que les règles changent d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre.
C'est un casse-tête.
Un énorme casse-tête. Si Spatio AI arrive vraiment à le faire de manière fiable grâce à l'IA, ce serait un avantage compétitif majeur. Mais il faut rester prudent. Les promesses de l'IA dans des domaines aussi normatifs et précis, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire fonctionner parfaitement.
Oui, on imagine. Esthétiquement, par contre, l'outil est décrit comme magnifiquement conçu, avec une interface très soignée.
Ça compte aussi beaucoup pour l'adoption.
Toujours en Suède, on trouve Finch, fondé en 2019. Il s'était fait connaître il y a quelque temps avec une vidéo assez virale, non hein ?
Oui.
Sur un plan qui s'adaptait dynamiquement.
Oui, je me souviens de ça. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, Finch s'est spécialisé dans la génération de plans des tâches détaillées.
Comment ça marche ?
Le processus, c'est SEM. Tu importes une géométrie de base, une enveloppe de bâtiment par exemple, et Finch utilise ce qu'on appelle le design computationnel, c'est-à-dire des algorithmes pour générer et optimiser des agencements combinés à de l'IA pour proposer automatiquement différentes options de plans d'étage, la distribution des pièces, les circulations, etc.
Et l'avantage clé, c'est l'export.
Oui, gros avantage. Ils exportent ça vers Revit en utilisant des objets Revit natifs. Pas juste des lignes, mais de vrais murs Revit, des portes, etc. Ça facilite énormément l'intégration dans un workflow BIM existant. Il s'intègre aussi avec d'autres plateformes comme Autodesk Forma, qui est la nouvelle offre cloud d'Autodesk.
La source souligne aussi qu'on peut personnaliser l'outil, l'entraîner avec ses propres standards de conception et qu'on peut modifier les plans générés. Ce n'est pas figé.
C'est important aussi. Ça montre que l'outil est pensé comme un assistant, pas comme un remplaçant. L'interface, là encore, est décrite comme super propre et nette.
Par contre, l'accès est encore limité sur liste d'attente, si j'ai bien compris.
Oui, ils sont probablement encore en phase de développement actif et de test avec des partenaires privilégiés. Mais Finch, c'est un bon exemple de la façon dont l'automatisation peut s'attaquer à des tâches très spécifiques et souvent très chronophages, comme dessiner des centaines de plans d'appartements type dans un grand projet résidentiel.
Logique. Ensuite, il y a IPAR, fondé en 2018. La source les considère un peu comme des précurseurs.
Oui, IPAR fait partie des early movers dans cette nouvelle vague. Leur parcours est intéressant. Ils ont commencé avec une ambition peut-être plus large, un peu comme les plateformes de faisabilité. Puis, ils ont pivoté pour se concentrer davantage sur l'automatisation d'aménagements intérieurs spécifiques, résidentiels, bureaux, hôpitaux.
Et l'équipe, là aussi, a des noms connus.
Oui, il y a notamment Andrew Human, qui est très connu dans la communauté Grasshopper pour avoir créé le plugin Human, très utilisé. Ça montre qu'il y a une vraie expertise en design computationnel derrière.
Et ils explorent même des choses assez futuristes, comme le text-to-bin.
C'est ça. L'idée de pouvoir décrire un espace ou un bâtiment avec du texte et que l'ordinateur génère un modèle 3D correspondant. On en est encore au balbutiement, hein, soyons clairs. Mais le fait qu'ils expérimentent dans cette direction est intéressant. L'interface d'IPAR est aussi jugée propre et intuitive.
IPAR montre donc qu'on peut évoluer d'une idée de plateforme large vers une niche d'automatisation très pointue.
Exactement. Le marché se cherche encore, les positionnements évoluent.
Et on arrive au dernier acteur mentionné, qui est un peu à part, mais que la source juge absolument crucial, Speckle. Fondé en 2020, issu d'un projet de recherche universitaire, je crois.
Oui, Speckle. Alors, eux, la source a raison de dire que ce sont un peu à part. Ce n'est ni une plateforme large au sens de vouloir remplacer Revit, ni une plateforme étroite focalisée sur une seule tâche comme Finch.
C'est quoi alors ?
Speckle se positionne comme une plateforme cloud, mais pour les données AEC. C'est ça la clé. On le voit souvent comme un simple outil d'interopérabilité, pour faire passer des modèles de Rhino à Revit ou inversement. Mais son potentiel va beaucoup, beaucoup plus loin.
C'est-à-dire ?
Il permet d'uploader, de gérer, de versionner, de visualiser et de partager des modèles et des données qui viennent de plein de logiciels différents. Rhino, Revit, Grasshopper, mais aussi Excel, Power BI et même des moteurs de jeu comme Unreal Engine.
Ah oui, c'est très large, hein.
Très large. Et ensuite, on peut récupérer ces données de manière structurée dans d'autres outils. C'est une sorte de hub central pour toutes les informations d'un projet.
Mais le lien avec le BIM 2.0, l'IA, il est où exactement ?
Il est fondamental. La source met le doigt sur un point essentiel. Un des plus gros freins à l'adoption massive de l'IA ou du calcul intensif dans le cloud pour les SC, c'est que nos données sont complètement éclatées, enfermées dans des formats propriétaires, dans des logiciels qui ne se parlent pas bien. L'IA a besoin de données accessibles, propres, structurées pour fonctionner.
Et Speckle fournirait cette couche de données unifiée ?
C'est exactement l'idée. Speckle propose de casser ces silos, de créer une sorte de lingua franca pour les données AEC, accessibles via le cloud. Une fois que tes données de géométrie, tes paramètres, tes résultats d'analyse sont centralisés et lisibles par d'autres systèmes via Speckle.
Alors là, on peut brancher dessus des algorithmes d'automatisation, d'analyse et surtout d'intelligence artificielle.
Voilà. L'analyse de la vidéo voit Speckle comme un catalyseur potentiel énorme. En rendant les données interopérables et accessibles à grande échelle, il lève un obstacle majeur pour que l'IA puisse enfin délivrer tout son potentiel dans notre secteur. C'est une vision très stratégique.
C'est vrai que, vu comme ça, ça change la perspective.
Et au-delà de ça, l'interface de Speckle, sa rapidité d'upload, la fluidité de sa visionneuse web, même sur mobile, sont aussi très appréciées. La source mentionne même que certains l'utilisent juste comme une super visionneuse BIM collaborative pour partager et commenter des modèles sur chantier.
Fascinant. Speckle, un peu le chaînon manquant potentiel pour l'IA dans la SC.
C'est une façon de le voir, oui. Un facilitateur essentiel.
Bon, alors si on essaye de prendre un peu de hauteur après ce panorama, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de toutes ces initiatives ? Est-ce que ça nous dit sur l'avenir des logiciels AEC ?
Ben, une première tendance, ou peut-être plutôt un rappel à l'humilité, créer le prochain Revit ou le prochain Archicad, c'est incroyablement difficile. Ces nouveaux outils sont prometteurs, oui, mais il ne faut pas s'imaginer qu'ils vont remplacer les logiciels établis du jour au lendemain.
Non, c'est un travail de longue haleine.
Exactement. Ce sont souvent des plateformes jeunes, encore en plein développement sur des aspects fondamentaux, comme la robustesse, la gestion des très gros projets, la documentation détaillée. L'appel lancé par la source est important. Si on veut voir émerger de vraies alternatives crédibles, il faut que la communauté s'y intéresse, teste ces outils quand c'est possible et surtout donne du feedback constructif aux développeurs.
C'est comme ça qu'ils pourront s'améliorer et peut-être un jour concurrencer sérieusement les grands acteurs.
Tout à fait. Soutenir l'écosystème.
Deuxième tendance qui crève les yeux. Le cloud est devenu la norme. Absolument toutes les plateformes qu'on a citées, ou presque, sont nativement basées sur le cloud.
Oui, c'est une évidence. Fini les installations lourdes sur chaque poste, fini les galères d'échange de fichiers énormes, place à l'accès depuis n'importe où, à la collaboration en temps réel. C'est dans l'air du temps, on le voit dans tous les domaines avec des outils comme Figma, Miro, Google Workspace.
C'est une transition assez logique pour l'AEC aussi. Même si ça peut encore poser des questions sur la sécurité des données, la dépendance à la connexion Internet.
Bien sûr, il y a des défis, mais la direction semble clairement prise.
Troisième point, très marquant, et on en a déjà pas mal parlé, ce focus très fort sur la phase amont, la faisabilité.
Oui, c'est frappant, Snaptrude, Arco, Giraffe, Spatio AI. Beaucoup attaquent par là. D'un point de vue purement business, ça se comprend très bien. C'est souvent une phase rapide, parfois stressante, pas toujours la plus rentable pour les agences d'architecture. Donc, l'optimiser, l'accélérer, ça a du sens économiquement.
Mais l'analyse soulève une question importante, et je suis assez d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop vouloir automatiser et simplifier cette phase initiale de standardiser la conception, de perdre un peu de cette exploration créative qui est si cruciale au tout début d'un projet?
C'est le grand débat. Cette phase d'esquisse, de faisabilité, c'est là où naissent les grandes idées, où on teste des partis pris forts. Si les outils nous poussent trop vite vers des solutions moyennes ou préformatées,
que les architectes vont vraiment adopter ces outils, la source s'interroge. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir l'impression que ça aseptise leur processus créatif? Ou pire encore, le scénario catastrophe évoqué, le promoteur qui utilise ces outils pour générer lui-même des dizaines d'options optimisées sur plan financier et qui arrive ensuite voir l'architecte en lui disant « Voilà, j'ai choisi ça, maintenant dessine-moi les détails. »
Oui, c'est une crainte réelle. La perte de contrôle créatif sur les phases initiales qui sont déterminantes. C'est un équilibre très délicat à trouver entre l'efficacité et la préservation de la valeur ajoutée de l'architecte ou du concepteur.
D'un autre côté, la source nuance en disant que pour une grande partie des projets, peut-être les 90% de bâtiments qui sont plus standards, plus répétitifs.
Là, ces outils pourraient apporter des gains d'efficacité considérables, sans forcément nuire à la qualité finale. Libérer du temps sur ces projets plus courants pour pouvoir se concentrer davantage sur les projets exceptionnels. C'est une perspective possible aussi. C'est un espace complexe, il n'y a pas de réponse simple.
Et en contrepoint de ce focus sur la faisabilité, on a vu l'approche de Konik, qui mise d'abord sur la robustesse du moteur de modélisation, une stratégie jugée pertinente.
Oui, parce qu'elle rappelle une vérité fondamentale. Au cœur de notre métier, il y a la capacité à modéliser des choses complexes de manière précise et à gérer une grande quantité d'informations attachées à cette géométrie. Bâtir sur des fondations techniques très solides avant d'ajouter les fonctionnalités périphériques, c'est peut-être moins sexy au début, mais ça peut s'avérer payant sur le long terme pour construire une plateforme vraiment fiable et puissante.
Logique. Et enfin, la dernière tendance, impossible de passer à côté, l'intelligence artificielle. Elle est partout, infusée à des degrés divers dans quasiment tous ces nouveaux outils.
C'est clairement la lame de fond technologique du moment et la SC n'y échappe pas. On voit de l'IA pour la génération de design, spéciaux, Finch, pour l'optimisation, pour l'analyse de données, potentiellement demain pour la vérification réglementaire, spéciaux.
C'est presque devenu un argument marketing obligatoire, non?
Un peu, oui. Il faut parfois se méfier de l'étiquette IA qui est mise un peu à toutes les sauces. Mais au-delà du marketing, le potentiel est réel. On peut imaginer des assistants IA qui nous aident à concevoir plus intelligemment, à éviter des erreurs, à automatiser les tâches les plus répétitives et sans valeur ajoutée.
La source évoque des gains de productivité importants, un peu comme le passage au CAD avait permis à des équipes plus petites d'être plus efficaces qu'avec le dessin à la main.
C'est une analogie intéressante. L'IA pourrait permettre à des agences ou des bureaux d'études d'être plus agiles, de faire plus avec moins de ressources ou de consacrer plus de temps à l'innovation et à la qualité.
Mais ça soulève aussi d'énormes questions, on est d'accord?
Ah oui, absolument. Ça dépasse largement la question des logiciels. Ça soulève une question fondamentale pour l'avenir de nos professions. Comment est-ce que l'industrie AEC va intégrer ces nouvelles capacités d'automatisation et d'IA? Comment va-t-on faire pour préserver et même idéalement augmenter la valeur ajoutée créative, stratégique, éthique des architectes, des ingénieurs, des constructeurs?
L'enjeu n'est pas que technique.
Pas du tout. Il est humain, organisationnel, économique. Quels sont les métiers de demain dans l'AEC? Quelles compétences faudra-t-il développer? Comment les modèles économiques des agences et des entreprises vont-ils évoluer? Ce sont des questions passionnantes et cruciales.
En tout cas, pour résumer, on est clairement face à un paysage logiciel AEC en pleine ébullition. Une nouvelle vague d'outils arrive, portée par le cloud, par l'IA, qui essaye de répondre aux frustrations accumulées et d'ouvrir de nouvelles voies. C'est un moment assez excitant à observer, je trouve.
Tout à fait. Cette exploration des sources nous a montré un écosystème très vivant, très diversifié, avec beaucoup d'initiatives qui tentent des choses différentes. Certaines vont sans doute réussir, d'autres vont échouer, c'est la loi du genre. Mais le mouvement est bel et bien lancé. Et la recommandation de la source s'y intéresser, tester, donner du feedback me semble très judicieuse pour tous les professionnels concernés par l'avenir de la conception et de la construction.
Absolument. Et pour terminer, peut-être une petite pensée à laisser à nos auditeurs pour prolonger la réflexion. Si ces nouveaux outils tiennent vraiment leur promesse de nous décharger des tâches les plus fastidieuses, les plus normatives, les plus répétitives, quelles nouvelles frontières est-ce que ça ouvre pour la créativité, pour le rôle stratégique des concepteurs, des ingénieurs, des constructeurs? Peut-être que le vrai BIM 2.0, finalement, ce n'est pas juste de nouveaux logiciels, mais une nouvelle façon de penser et de pratiquer nos métiers.
C'est une excellente question pour conclure. Une piste à creuser. Assurément.